Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris et bienvenue à nos amis internautes qui nous suivent en direct sur YouTube. Donc, bienvenue pour cette conférence mensuelle de l'Institut d'astrophysique de Paris. On est très content d'accueillir plein de publics dans nos murs. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce que peut-être vous avez entendu ce matin, c'était l'annonce du prix Nobel de physique. Alors évidemment, ça nous touche toujours un petit peu quand on fait de la physique. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'un des coloréas, c'est un compatriote, c'est Alain Aspect, donc un physicien français qui a reçu le prix Nobel de physique ce matin pour ses travaux sur la mécanique quantique, ces travaux qui permettent de mieux comprendre cette mécanique, cette physique complexe, et puis également qui a des applications. Et figurez-vous qu'Alain Aspect, plusieurs fois, il a donné des conférences là où on se trouve ce soir même. Donc ça fait très plaisir d'être ici. Et puis si vous allez sur notre site web à l'IAP, vous pouvez voir des liens sur les conférences qu'il a données ici. Donc si vous voulez en savoir plus sur ses travaux, vous pouvez suivre ses conférences, les revisionner donc sur notre site internet à l'IAP. De nouveau pour nos amis internautes, donc il y a un chat sur le YouTube, vous pouvez intervenir dessus et notamment faire des commentaires, poser des questions à notre oratrice de ce soir, et donc j'essaierai de les retranscrire à la fin de ta présentation, de même que les questions et commentaires des personnes présentes dans la salle. La suite de notre programme, donc le mardi 8 novembre, nous aurons notre collègue de l'IAP Michel Denfeld, qui nous présentera une conférence intitulée « Les nuages de Magellan, de la découverte à l'exploitation scientifique ». Le mois suivant, le mardi 6 décembre, notre collègue David Elbaz nous présentera une conférence intitulée « L'histoire de l'univers racontée par la lumière ». Et puis, en dehors de cette programmation, mais quelque chose d'important, la fête de la science aura lieu ici à l'Institut d'astrophysique de Paris le 16 octobre. De 11h à 18h, nos portes seront ouvertes, donc tout le monde est le bienvenu pour venir écouter, voir des travaux, écouter des conférences, et notamment nous aurons à la science en fait une conférence de notre oratrice de ce soir, mais ce ne sera pas la même que ce soir, donc n'hésitez pas à suivre ce soir et à revenir pour science en fait le 16 octobre. Et donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir notre collègue Clotilde Laigle. Clotilde est chercheuse ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. C'est ici également que tu as préparé ta thèse il y a quelques années. Entre-temps, tu es allé travailler à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Donc ici tu es chercheuse, comme je l'ai dit, tu enseignes également l'astrophysique à l'université de la Sorbonne. Tes travaux portent surtout sur la cosmologie, donc l'étude des grandes structures, les galaxies, les amas, le milieu intergalactique, la toile cosmique dont tu nous parleras ce soir. Tu es également impliquée dans beaucoup de grands projets observationnels, notamment la mission Euclide, donc un satellite de l'Agence spatiale européenne qui va être lancé d'ici peu, et dans lequel l'IAP est très impliqué, et donc notamment toi. Et donc ce soir, tu nous présentes une conférence intitulée « Relier les points de la toile cosmique ». Voilà, je t'en prie.
Merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfait. Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus ce soir. Alors pour commencer, je vous invite à faire ce voyage, donc avec ce film. Ce voyage, donc on traverse ici un champ de galaxies. C'est une simulation numérique qui a été tournée en Corée. C'est une très très grosse simulation et qui est conçue pour essayer de reproduire l'univers tel qu'on l'observe. Donc pour vous donner un petit peu une idée du volume de données et du nombre de calculs qui sont nécessaires pour construire cette simulation, donc elle a été tournée pendant un mois sur des milliers de nœuds de calcul. Donc si vous essayez de faire ça sur votre ordinateur personnel en continu, il vous faudrait des centaines voire des milliers d'années. Alors, le voyage qu'on fait ici à travers cette simulation, il est extrêmement rapide, c'est un voyage fictif parce qu'on va beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, là. On va à une vitesse qui est de l'ordre de 2 mégaparsecs par seconde, donc ça fait à peu près 6 millions d'années-lumière par seconde. Donc c'est totalement imaginaire, mais ça nous permet d'avoir rapidement une idée de la distribution des galaxies dans l'univers. Et si on observe bien ce qui se passe, on voit en fait que ces galaxies ne sont pas tout à fait uniformément réparties. En fait, on aperçoit des groupes de galaxies, comme ici, et puis on aperçoit certaines structures qui ont l'air d'être des structures filamentaires. Et tout l'objet de cet exposé, ça va être en fait d'étudier ces structures et le lien entre les galaxies et ces structures. Alors, donc chacune de ces tâches sur ce film, ou de ces points, c'est une galaxie. telle que vous la voyez sur cette vignette-là. Donc une galaxie, c'est un très grand ensemble de gaz et d'étoiles et un peu de poussière, en général en rotation. Donc quand je dis très grand ensemble, c'est vraiment très grand. C'est-à-dire que dans une galaxie, on va avoir plusieurs dizaines de millions, voire plusieurs milliards, voire plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Pour avoir un peu en tête une idée des ordres de grandeur qu'on va évoquer aujourd'hui, on peut faire le rapport entre la taille de la Terre, le diamètre de la Terre et le diamètre de la plus petite bactérie qu'on connaît. Et c'est un rapport de taille qui est de l'ordre de 10 puissance 14, donc un 1 et puis 14 zéros. C'est à peu près le même rapport de taille entre le diamètre de la Terre et le diamètre d'une galaxie typique telle que la Voie lactée, donc 10 puissance 14. Donc, aujourd'hui, dans cet exposé, on va évoquer des objets qui sont extrêmement grands, qui sont aussi extrêmement loin et qui évoluent sur des échelles de temps qui sont extrêmement longues. Pour autant, ces objets, on peut les observer. Et donc là, je vais faire un petit panorama qui est extrêmement incomplet de l'histoire de la cartographie de l'univers, qui va être nécessaire en fait, pour comprendre la suite. Alors, quand on fait de l'astrophysique extragalactique, donc c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux objets qui sont à l'extérieur de la Voie lactée, c'est bien d'avoir en tête le nom de Hubble, qui a établi le fait qu'il y a d'autres galaxies à l'extérieur de la nôtre. Alors, évidemment, cette constatation, enfin cette mesure d'Hubble, s'appuie sur les travaux qui ont été faits antérieurement, donc il est juste de rendre tribut à d'autres astronomes avant lui, dont les travaux sont en particulier importants parce qu'ils ont permis de faire une classification assez systématique des étoiles et aussi des objets dits diffus, des nébuleuses qu'on observe dans le ciel nocturne. Et c'est important parce qu'un certain nombre de ces nébuleuses qui ont été répertoriées avant Hubble étaient en fait des galaxies à l'extérieur de la nôtre. Donc, en plus d'établir qu'il y a d'autres galaxies en dehors de la nôtre, Hubble a constaté que les galaxies, les objets à l'extérieur de notre galaxie, s'éloignent de nous avec une vitesse qui est d'autant plus importante qu'elles sont loin, donc qui est proportionnelle à la distance. Donc les objets s'éloignent d'autant plus vite qu'ils sont loin. Et c'est ce qui est représenté ici sur ce diagramme, le diagramme de Hubble, qui représente la vitesse d'éloignement de ces objets en fonction de leur distance. Donc, alors ce diagramme qui a été fait avec des... Donc vous voyez, il y a beaucoup de dispersion dans les points de mesure. Il a ensuite été confirmé avec des données plus précises. Et en fait, c'est la mise en évidence de l'expansion de l'univers. Donc cette vitesse des galaxies est due au fait que toute la trame de l'univers est en expansion. Donc tous les objets s'éloignent les uns des autres. Et donc c'est important parce que du coup la vitesse d'éloignement des objets par rapport à nous va nous renseigner sur leur distance par rapport à nous. Et une observation qui est très liée à cela, c'est le décalage vers le rouge. Donc les objets qui s'éloignent de nous, qui sont à une certaine distance, on va observer leur spectre en fait avec un certain décalage vers le rouge et leur spectre va être d'autant plus décalé vers le rouge qui sont loin de nous. En anglais, on appelle ça le redshift. Donc, parfois, sur les diagrammes que je vais présenter ensuite, il y aura écrit redshift. Et donc, en fait, ce décalage vers le rouge, il est dû à la dilatation de l'espace-temps du fait de l'expansion de l'univers. Alors, ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que si on est capable d'observer des particularités dans le spectre de ces objets, tels que des raies d'émission qu'on voit ici, on va pouvoir mesurer le décalage vers le rouge de ces raies d'émission, parce que ces raies d'émission, elles interviennent à des niveaux d'énergie qui sont bien précis et qu'on connaît, parce que si on connaît ces éléments chimiques. Et si on observe toutes les raies d'émission du spectre d'un objet décalé vers le rouge, ben on va pouvoir en déduire le décalage vers le rouge et donc la distance de cet objet par rapport à nous. Alors, après Hubble, l'astrophysique extragalactique a pris de l'essor. Et je vais juste mentionner deux autres relevés qui sont pertinents pour ce qu'on va dire ce soir. Notamment donc, cette publication, dont le premier auteur, Valérie Delapparence, est une astronome de l'IAP, qui a mis en évidence en 1986 la distribution des galaxies à grande échelle. Donc là, ce qu'on voit, c'est un relevé de galaxies. Et là, vous voyez en fait que la distance des galaxies, elle est en fait exprimée en vitesse, d'accord ? Et donc c'est lié à ce que je viens de dire. Et ce que les auteurs de cette publication ont mis en évidence avec un petit millier de galaxies dans le relevé du CFA, c'est que ben, ces galaxies ne sont pas distribuées uniformément dans l'univers, mais qu'elles sont agglomérées en amas, et puis ces amas sont reliés par ce qui semble être des filaments. D'accord ? Donc à ce stade, ils appelaient ça une structure en bulle de la distribution de la matière. Donc ce qui a été mis en évidence avec un millier de galaxies a ensuite été mis en évidence avec des relevés plus grands. Et ici, ce qu'on voit, c'est le relevé du SDSS. Donc ici, c'est une publication de 2000, mais il y a eu d'autres publications de données avec plus de données plus tard. Et ici, on voit avec l'ordre de 1 million de galaxies, on voit apparaître de nouveau cette structure particulière, cette structure filamentaire, auquel on a donné le nom de toile cosmique. D'accord ? Visuellement, ça ressemble en effet un peu à une toile d'araignée. Et donc, les galaxies sont distribuées le long de cette toile cosmique, dont les nœuds sont les groupes de galaxies. Alors, à ce stade, je vais faire une autre parenthèse qu'il est important de garder en tête, c'est que la vitesse de la lumière est finie, et de ce fait, plus on voit loin, plus on remonte dans le temps. D'accord ? Donc, le Soleil, qui a 150 millions de kilomètres de nous, on l'observe tel qu'il était il y a environ 8 minutes, parce que la lumière a mis 8 minutes à nous parvenir. Et donc, c'est pareil pour tous les objets distants. Et donc, par exemple, sur ce relevé, donc pour les galaxies qui sont le plus loin, là, qu'on a observé, ces galaxies sont en fait, on les observe telles qu'elles étaient il y a 3,3 milliards d'années, parce que la vitesse a mis 3,3 milliards d'années à nous parvenir. Donc c'est extrêmement intéressant, d'accord ? Si la vitesse de la lumière n'était pas finie, en fait on ne pourrait pas remonter l'histoire de l'univers aussi bien qu'on le fait. Donc voir loin, c'est voir dans le passé, et nos télescopes, c'est aussi des machines à remonter l'histoire de l'univers. Alors, depuis les années 2000, on a fait beaucoup d'autres relevés, et principalement, les objectifs des nouveaux relevés qu'on fait sont les suivants. On cherche à avoir une couverture du ciel qui est la plus grande possible. On cherche aussi à sonder des objets de masse de plus en plus faible, je vais y revenir ensuite. Et on cherche à voir de plus en plus loin pour sonder des époques de plus en plus lointaines, c'est-à-dire pour observer l'univers tel qu'il était quand il était jeune, en fait. Donc, parmi ces relevés, Guillaume a mentionné Euclide. Donc, en effet, c'est un télescope européen qui va être lancé prochainement, probablement l'année prochaine, et qui a vocation à observer une très grande partie de la sphère céleste qui est représentée ici. Donc, on prévoit un relevé d'une dizaine de milliards de galaxies. Alors, sur toutes ces images que j'ai montrées, les galaxies étaient des points sur une carte de l'univers. En fait, maintenant, je voudrais discuter du fait que les galaxies sont bien plus que des points sur une carte de l'univers. En fait, ce sont des systèmes qui sont extrêmement complexes. Alors, pour l'illustrer, je vais montrer ici, je vais présenter deux galaxies qui pourraient s'apparenter à deux points similaires, des objets de masse similaires, mais qui sont en fait très différentes. Donc ces deux galaxies, elles ont été observées sur le champ Cosmos. C'est une petite partie du ciel que je vais détailler par la suite. Vous voyez ici, Z égale 0,52, ça indique le redshift, donc le décalage vers le rouge, donc la distance de ces galaxies par rapport à nous. Et ici, ce qu'on indique, c'est la masse de ces galaxies en échelle logarithmique et en unité de masse solaire. Donc ces galaxies ont une masse de l'ordre de 10 puissance 10.8, donc 10 puissance 11 masse solaire, donc de la centaine de milliards de masse solaire. Elles ont une masse très similaire, elles sont à des distances similaires de nous, mais vous voyez que la répartition du flux dans ces galaxies est très différente. À gauche, le flux est très concentré dans un bulbe central. À droite, la galaxie est beaucoup plus étendue et on distingue des bras spiraux. Sur le diagramme de droite, ici, je reporte le flux de la galaxie en fonction de la longueur d'onde, d'accord ? Et en fait, on prend des photos de ces galaxies dans des filtres de couleurs différentes. Donc là, c'est un filtre rouge. Ensuite, je fais un filtre vert. Donc vous voyez que ces galaxies ont un flux intégré sur toute l'image qui est très similaire, d'accord ? Les points rouges et bleus sont superposés. Mais encore, la distribution spatiale du flux, la répartition est très différente. Et puis maintenant, je vais regarder un filtre bleu. Et là, ce qu'on voit, c'est intéressant, c'est que pour la galaxie du milieu ici, on pourrait la détecter dans ce filtre bleu. La galaxie ici, on ne la détecterait pas, d'accord ? Elle émet très très peu dans le bleu. C'est intéressant parce que la répartition de la lumière en fonction de la longueur d'onde pour les galaxies, ça va nous renseigner sur les populations stellaires qui composent ces galaxies. Et notamment, une galaxie qui émet beaucoup dans le bleu, ça va être une galaxie qui contient beaucoup d'étoiles jeunes, donc qui forme activement des étoiles. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer cette courbe ici du flux en fonction de la longueur d'onde avec des modèles d'évolution des populations stellaires, et on va en déduire la masse de la galaxie, la composition chimique, le taux de formation stellaire, etc. Donc là, j'ai fait pour deux galaxies. Maintenant, on peut le faire pour un très grand nombre de galaxies et par exemple pour tout le relevé du DSS que j'ai présenté précédemment. Et on peut construire ce type de diagramme. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la chose suivante. On a tracé le taux de formation stellaire, c'est-à-dire combien d'étoiles sont formées dans la galaxie par unité de temps, en fonction de la masse de la galaxie. Et donc, le code couleur est le suivant. Plus c'est rouge, plus il y a de galaxies de points sur le diagramme. Okay, donc, on voit que la plupart des galaxies s'assemblent le long de cette séquence principale, ici. Mais il y a une population de galaxies qui correspond à des masses relativement grandes et qui ont un taux de formation stellaire beaucoup plus faible que celles qui sont sur la séquence principale. D'accord ? Donc, en fait, il y a une population de galaxies massives qui ne forment plus d'étoiles. En fait, c'est la conclusion qu'on tire de ce diagramme. Et donc, une grande question, c'est pourquoi certaines galaxies massives ne forment plus d'étoiles ? Pourquoi la formation stellaire est inefficace dans certaines galaxies ? Alors, ce n'est pas vraiment une question anodine, parce que si on regarde les chiffres un peu en détail, 60% des galaxies massives dans l'univers relativement proche, donc dans un univers assez évolué, à peu près 10 milliards d'années après le Big Bang, ne forment plus d'étoiles. D'accord ? C'est quand même plus de la moitié des galaxies ne forment plus d'étoiles. Donc la formation stellaire dans les galaxies massives est vraiment inefficace. Si on remonte dans le temps, seulement 4 milliards d'années après le Big Bang, on a 25% des galaxies massives qui ne forment pas d'étoiles. Et 25%, c'est quand même un quart de la population, donc c'est quand même beaucoup. Et plus on remonte dans le temps, plus ça pose question, parce que ces galaxies sont très massives, d'accord ? Elles font plus de 100 milliards de masses solaires. Ça pose question parce que ces galaxies massives ont un temps de vie très court, elles ont dû former des étoiles très très vite pour devenir si massives, et après quelque chose a stoppé la formation stellaire dans ces galaxies, et maintenant elles ne forment plus d'étoiles. Donc ça, c'est une question qu'on va garder en tête, celle de les processus de freinage de la formation stellaire dans les galaxies. Avant d'essayer de s'intéresser au pourquoi, on va étudier une autre spécificité des populations de galaxies. On va regarder leur morphologie, donc à quoi elles ressemblent. Donc vous voyez ici un grand nombre de galaxies différentes qui ont des morphologies très variées. Alors, on peut les classer. Il y a eu énormément de classifications depuis Hubble. Là, je vous présente une classification par Butta et al. On a un étudiant à l'IAP, par exemple, Louis Killet, qui a beaucoup travaillé, enfin, qui travaille beaucoup sur la morphologie des galaxies pendant sa thèse. Donc, si on les classe, j'obtiens quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez que j'ai classé les galaxies en fonction de la présence ou non d'une barre centrale, le nombre de bras spiraux, la taille du bulbe, etc. Et donc, une deuxième question à laquelle on cherche une réponse, c'est qu'est-ce qui façonne ces galaxies ? Voilà. Pourquoi elles ont une morphologie si variée ? Est-ce que c'est une séquence évolutive ou non ? Etc. Alors, pour répondre à ces questions, la difficulté, c'est que nos observations de l'univers sont extrêmement parcellaires. Elles sont très incomplètes. Donc, ce qu'on observe essentiellement, c'est les étoiles. Donc la lumière émise par les étoiles dans ces galaxies. Mais encore, on n'observe pas toutes les galaxies qui se trouvent dans l'univers. Là, ce que je présente, c'est le nombre de galaxies par unité de volume en fonction de la masse de ces galaxies, encore en échelle logarithmique. Et puis, les différentes courbes représentent à différentes époques de l'histoire de l'univers. Et ce qu'on observe facilement, en fait, c'est les galaxies qui sont dans ce régime de masse, c'est-à-dire celles qui sont massives, mais pas trop massives, parce que si elles sont trop massives, il y en a très peu par unité de volume, donc il faut des très grands volumes pour espérer en détecter. Donc à temps de télescope égal, ça veut dire qu'on va privilégier une grande couverture du ciel, mais on va observer moins longtemps chaque partie du ciel, donc on va privilégier les galaxies massives aux dépens de celles qui émettent moins et pour lesquelles il faudrait observer plus longtemps. Donc pour les galaxies massives, très très massives, il faut une grande couverture de ciel. Et puis ensuite, pour les galaxies les moins massives, il faut observer plus longtemps, d'accord, parce qu'elles émettent plus faiblement. Donc c'est les galaxies les moins massives, c'est aussi les galaxies qui sont les plus loin. D'accord, par exemple, une galaxie qui se trouverait à un décalage de rouge vers le rouge de 4, donc c'est, je crois, peut-être 2 milliards d'années après le Big Bang, du fait de ce décalage vers le rouge et du fait de l'éloignement, elle nous apparaît 600 fois moins brillante qu'une galaxie de masse similaire et d'étendue similaire qui serait dans notre univers proche. Le problème, c'est que ces galaxies moins massives, c'est aussi la majorité des galaxies, d'accord ? Donc, pour la majorité des galaxies, il faut intégrer longtemps en temps de télescope pour les observer. Alors là où on aura peut-être une petite révolution et probablement des surprises, ce sera avec le télescope James Webb, qui a été lancé le 25 décembre 2021, parce que ce télescope est conçu pour observer l'univers lointain, et puis aussi, donc il va avoir une très très bonne sensibilité aussi pour observer des galaxies de faible masse, et en plus de ça, une très très bonne résolution, donc on aura des belles mesures de la morphologie des galaxies. On n'observe pas toutes les galaxies naines, c'est plus difficile de les observer, de les avoir dans nos relevés, mais en admettant qu'on observe toutes les galaxies qu'il y a à observer dans l'univers, ça constituerait seulement qu'une petite partie de la matière contenue dans l'univers. D'accord ? Donc, on estime que la matière qui est contenue dans les galaxies et dans les groupes de galaxies, donc étoiles et gaz confondus, ça représente environ 3% du contenu en matière de l'univers. Une grande partie du gaz est contenue de manière diffuse entre les galaxies. Et ce gaz, on le voit difficilement, je vais y revenir si j'ai le temps à la fin. Et puis, une grande partie de la matière, on ne la voit pas du tout, donc on postule son existence et on la devine par l'interaction gravitationnelle, d'accord ? Notre modèle cosmologique standard suppose l'existence de cette forme de matière, mais elle n'émet pas de rayonnement, donc on ne la voit pas. Donc là, tout ça pour pointer le fait que vraiment ce qu'on observe, c'est des petits îlots qui brillent, donc ces galaxies, et en particulier les galaxies massives, mais ça représente seulement vraiment la partie émergée d'un très très gros iceberg qui est la totalité de la matière dans l'univers. Et puis sur ce diagramme, on voit aussi qu'on se doute que en fait, tout ce qu'il y a hors des galaxies, à la fois le gaz hors des galaxies, mais aussi la matière noire, ça va avoir une importance pour comprendre les étoiles et le gaz dans les galaxies. Alors, j'ai dit les galaxies, c'est des systèmes complexes. Donc, j'ai parlé de gaz, d'étoiles, de poussière. Les galaxies massives ont toutes un trou noir central, au moins on le suppose. Tous ces éléments ne peuvent pas être étudiés de manière isolée. Et pour bien les comprendre, en fait, il faut regarder ça de manière globale parce que tous ces éléments sont en interaction. Donc même si le modèle qu'on construit va être relativement grossier au départ, on essaie de prendre ça de manière globale et puis après on raffine les approximations successives qu'on a faites grâce à de nouvelles observations, etc. Et une observation par exemple sur le gaz dans les galaxies, ça va aussi avoir un impact sur le modèle global et donc sur les autres éléments des sous-systèmes. Comprendre la formation des galaxies par des calculs analytiques à la main, en fait, c'est très compliqué du fait de cette complexité. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser des simulations numériques qui sont tournées sur des super ordinateurs. Dans ces simulations numériques, on implémente notre meilleure connaissance de la formation des galaxies, des processus physiques, des lois d'évolution de l'univers, etc. Et l'ordinateur fait les calculs et après, on va comparer le résultat avec les observations. Alors justement, qu'est-ce qu'on comprend maintenant de la formation des galaxies ? Former des galaxies, c'est une recette complexe. Et pour commencer, il nous faut un récipient, un contenant. J'ai parlé de matière noire. Et en fait, le contenant, ce qui va héberger la galaxie, ça va être un halo de matière noire. Donc chaque galaxie va être plongée dans un halo de matière noire. Qui naît de petites surdensités. Les petites surdensités vont accumuler de la matière sous l'effet de la gravité. Et à partir d'un certain moment, le halo va s'effondrer sur lui-même et former un objet tenu par la gravité. Et ça va agir en fait comme un puits dans lequel le gaz va tomber. Donc on appelle ça un puits de potentiel gravitationnel. Donc ce halo de matière noire, il va accréter, il va accumuler du gaz qui va couler le long de la toile cosmique vers le centre du halo. Le gaz, il peut rayonner de l'énergie, donc il va se condenser, il va aller profond au centre du halo, là où c'est plus dense. Et puis, on va accumuler du gaz, et si on atteint une densité suffisante, on va rapprocher en fait les atomes de gaz suffisamment pour pouvoir allumer des réactions de fusion nucléaire et on va comme ça allumer des étoiles. Voici les éléments de ma recette. J'ai ce contenant qui est le halo de matière noire, j'ai l'ingrédient qui est le gaz froid et puis le gaz s'effondre et je forme des étoiles. Alors là, ce que je montre, c'est la relation entre le taux de formation d'étoiles et la densité de gaz présent. Et vous voyez en effet qu'il y a une jolie relation d'échelle. Et la densité de gaz va elle-même dépendre de la masse du halo de matière noire. Alors tout ça est très convaincant, mais du coup, on se demande comment c'est possible que 60% des galaxies massives dans notre univers proche ne forment plus d'étoiles. Donc pour expliquer ça, on a plusieurs candidats, et notamment en fait ce qu'il faut c'est stopper l'accrétion de gaz froid ou bien réchauffer ce gaz, ou bien l'éjecter. D'accord ? Donc pour ce faire, on a de nombreux mécanismes qui peuvent expliquer le chauffage ou l'éjection du gaz, donc notamment par exemple les explosions de supernovae, d'étoiles massives, peuvent éjecter le gaz dans les galaxies de faible masse si la gravité n'est pas suffisamment forte pour retenir ce gaz. Il va être éjecté, donc il ne va plus être disponible pour la formation stellaire. Dans les galaxies les plus massives, le disque d'accrétion autour du trou noir central, par exemple, va également rayonner de l'énergie et réchauffer le gaz. Donc ces nombreux mécanismes, c'est difficile de les isoler parce qu'ils ont des effets similaires sur les conditions du gaz en fait et sur les propriétés qui en résultent des galaxies. Donc ce qu'on fait encore, c'est qu'on utilise nos simulations numériques et puis on va paramétriser ces processus et puis on va faire varier les paramètres et on va regarder quelle meilleure combinaison de paramètres se rapproche le mieux des données observées. Alors, ce que représente cette courbe, ce n'est pas très important. En gros, c'est le nombre de galaxies par unité de volume en fonction de la masse. C'est la même chose que j'ai montré tout à l'heure, mais en unité logarithmique. Mais ce qui va être important de regarder, c'est comment la courbe bleue, qui est une simulation numérique, se rapproche de la courbe noire. Donc là, j'ai mis les curseurs à un certain niveau pour ces trois paramètres, efficacité de la formation stellaire, énergie déposée par les supernovae dans le milieu, et puis énergie déposée par le noyau actif de galaxies. Et on peut regarder un autre modèle où on fait varier ces paramètres de manière différente et on obtient une autre courbe. Et donc là, vous voyez que je forme un tout petit peu trop de galaxies de faible masse, mais j'ai un petit problème ici pour reproduire la courbure des données observées qui sont en noir. Puis je peux faire encore un autre modèle. Et là j'ai une autre courbe, d'accord ? Et là vous voyez qu'on forme trop de galaxies, enfin en tout cas les galaxies sont trop massives. Donc on peut faire ça, et en fait, plus nos observations seront nombreuses et plus on arrivera à mieux contraindre les paramètres à converger vers le bon modèle. La difficulté qu'on a ici, c'est que tourner ces simulations, ça prend beaucoup de temps. Et aussi, ça marche bien si on connaît tous les paramètres à faire varier. Mais là, on a étudié que ce qui se passe à l'intérieur du halo de matière noire, d'accord ? Une fois que le gaz est à l'intérieur du halo. On n'a pas évoqué ce qui se passe quand on fait varier le récipient, d'accord ? Le halo de matière noire lui-même, ou l'environnement, et l'ingrédient qu'on met, le gaz qui tombe sur ce halo, est-ce qu'il est froid ou pas ? Donc c'est ce que je vais discuter pendant le reste de cet exposé, parce que en fait, faire varier ces paramètres, ça va nous amener à nous interroger sur ce qu'il y a autour des halos de matière noire. Alors je reviens à cette distribution de galaxies telle qu'on peut l'observer. Donc ici c'est telle qu'on peut l'observer, mais c'est encore une simulation numérique. Donc chacun de ces points, c'est une galaxie qui est plongée dans son halo de matière noire. Et on l'a évoqué au départ, cette distribution, elle a l'air filamentaire. Donc si je vous demandais de tracer à la main, de relier ces galaxies, en fait c'est assez probable que vous traciez quelque chose comme ça qui relie les endroits où ça brille le plus. Et peut-être aussi que vous traceriez quelque chose comme ça là, un autre trait comme ça. Et en fait, intuitivement, vous avez tracé les filaments de la toile cosmique parce que cette distribution de galaxies, elle se répartit le long de ces filaments. Et en effet, si on regarde la distribution de matière noire sous-jacente, que l'on connaît parce que c'est une simulation, on observe ça. On voit bien en fait ces filaments de la toile cosmique qui apparaissent là où on les aurait naturellement tracés. Donc en fait, cette toile cosmique, cette structure filamentaire, c'est une prédiction de notre modèle. Maintenant, en fait, on voit que c'est aussi un réservoir de matière diffuse. Et donc, il est très légitime de s'interroger si la proximité à ces réservoirs de matière diffuse, ça va avoir une importance pour l'assemblage de la masse dans les galaxies. Alors, pour répondre à cette question, je vais prendre une approche observationnelle pour commencer. Donc, je vous ai parlé du champ cosmos, quand je vous ai montré les deux galaxies qui étaient de même masse mais différentes. Là, je vais vous montrer encore quelques mesures à partir de ce champ. J'y suis attachée parce que j'ai beaucoup travaillé dessus pendant ma thèse. Et en fait, c'est un champ, il est assez petit, d'accord ? C'est 2 degrés carrés sur le ciel. Là, on compare à la surface sur le ciel de la Lune. Vous voyez, c'est à peu près une dizaine de fois la surface projetée de la Lune sur le ciel. Donc, c'est un petit champ. L'avantage, c'est qu'il a été imagé par beaucoup de télescopes dans différentes longueurs d'onde. Et donc on peut échantillonner relativement bien le spectre électromagnétique des galaxies. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc en fait, chacun de ces télescopes fait des photos de cette petite partie du ciel dans différents filtres de couleurs qui sont présentés ici. Et donc on va mesurer le flux des galaxies, la luminosité de ces galaxies dans ces différents filtres. Donc, voilà, là c'est un exemple pour une galaxie, d'accord ? Et après, ce qu'on va faire, on va faire la même chose que ce que j'ai présenté au départ, c'est qu'on va comparer cette courbe, enfin ces points de données, avec des modèles. Et donc, par exemple, alors je ne sais pas si c'est très clair, oui, on le voit. Donc là, j'ai tracé en bleu le modèle qui correspondrait bien à ces points de données. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va voir quel décalage vers le rouge il faut dans nos modèles pour ajuster correctement les points de données. Donc ça va nous renseigner sur la distance de ces galaxies par rapport à nous. D'accord ? On a besoin de faire ça pour essayer de redistribuer en 3D, déprojeter cette distribution de galaxies et la tracer en 3D. En plus de ça, les modèles vont nous renseigner sur la masse des galaxies, le taux de formation stellaire, etc. Donc en gros, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on a cette image du champ cosmos. Et ce qu'on veut, c'est qu'on voudrait pouvoir placer les galaxies en 3D, les galaxies qu'on extrait de cette image. En pratique, ce n'est pas aussi facile parce qu'on a une incertitude sur la précision le long de la ligne de visée, d'accord ? On a une incertitude sur la distance de ces galaxies par rapport à nous. Donc il y a une certaine confusion ici. Donc vous voyez que ça va être très difficile si je prends cette distribution avec cette incertitude de faire une cartographie en 3D. Alors on ne se démonte pas pour autant, et ce qu'on peut faire pour contourner cette difficulté, c'est qu'on peut faire des projections, d'accord ? Je fais des tranches dans cette distribution, et puis je regarde en 2D déjà, est-ce que j'arrive à voir la toile cosmique, parce que c'est ce qui nous intéresse là. Et effectivement, on peut le faire, et donc ça, c'est un exemple d'une tranche en 2D. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les couleurs ici, c'est plus c'est jaune, plus il y a de galaxies. Donc quand c'est bleu, c'est des vides, en fait. Et après, automatiquement, on peut extraire la position des filaments, voilà, qui tracent les zones les plus denses, d'accord ? Ce que vous auriez tracé intuitivement à la main quand vous auriez relié les galaxies. Donc ça, c'est formidable, parce que ça nous permet d'avoir une estimation de la position de ces grandes structures à partir d'un relevé observé. Maintenant, ce qui nous intéressait, c'était de savoir s'il y avait une corrélation entre les propriétés des galaxies et la proximité aux filaments cosmiques, parce que ces filaments cosmiques, ça représente un petit peu les réservoirs de matière dans l'univers. Donc c'est une mesure qui a été faite, et pas seulement dans ce champ cosmos, mais aussi dans beaucoup de relevés, et les résultats convergent vers cette constatation, qu'en fait, les galaxies qui ne forment pas d'étoiles, elles sont plutôt vers le centre des filaments, tandis que les galaxies qui forment des étoiles, elles sont plutôt à l'extérieur. Donc ça, c'est assez contre-intuitif, parce qu'on a dit que ces filaments, c'était le réservoir de matière, donc le réservoir de gaz. Donc on s'attendrait à ce que les galaxies qui sont dans le réservoir de gaz, elles vont pouvoir accumuler plus de gaz et donc former plus d'étoiles, parce que le gaz, c'est le carburant pour la formation stellaire. Alors pour essayer d'interpréter ce résultat, on va retourner à nos simulations numériques. Donc ces simulations numériques, ce n'est pas la vérité de ce qui se passe dans l'univers, d'accord ? C'est notre, disons, ce qu'on peut faire de mieux pour interpréter. Mais peut-être que ce qui se passe dans l'univers, ce n'est pas exactement ce qui se passe dans la simulation numérique. Cependant, on s'appuie sur les simulations numériques pour essayer de développer une intuition de ce qui peut se passer. Et après, évidemment, il faut confirmer davantage avec des observations. Donc là, j'ai remis ce transparent pour avoir une vue globale des structures. Donc on se rappelle qu'il y a une galaxie au centre d'un halo de matière noire qui peut potentiellement accumuler du gaz. Ce halo, il est plus ou moins proche des filaments cosmiques, de ces grands filaments de matière. Et ces filaments de matière, c'est des morceaux de cette toile cosmique géante. Si on regarde cette image, donc ici, chaque grumeau noir, c'est une galaxie. Et on voit qu'il y a des galaxies qui sont dans des filaments plus gros qu'elles, d'accord ? Ces galaxies ici, elles sont dans ce gros filament. Puis il y a d'autres galaxies qui sont plus grosses que les filaments auxquels elles sont connectées. Et c'est le cas de cette galaxie qui est un peu plus loin de ce gros filament. Alors, si vous ne me croyez pas qu'elle est connectée à d'autres filaments, je vais juste changer le contraste de la figure. Et en fait, on voit bien ici qu'il y a un filament de gaz qui est connecté à cette galaxie. Donc ça nous permet de développer une compréhension de ce qui se passe, parce qu'en fait, finalement, c'est peut-être bien de ne pas être trop près d'une grosse structure, de ne pas être trop près d'un gros filament pour les galaxies. D'accord ? Parce que si cette galaxie, elle est relativement loin, en fait, elle va dominer son environnement. D'accord ? Et donc, elle va accumuler le gaz qu'il y a dans son voisinage. Par contre, cette galaxie qui est un peu plus proche du filament, elle a beau être dans ce filament, dans ce réservoir de gaz, elle n'est pas toute seule, en fait. Il y a d'autres galaxies dans le filament, et puis le filament lui-même va aussi accumuler de la matière, d'accord ? Donc, en fait, elle va être en compétition pour accréter le gaz. Et donc, ça va peut-être, en fait, impacter la formation stellaire dans cette galaxie. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point qu'on a mis en avant et qui est également à considérer est le suivant. Donc là, j'ai parlé des flots de gaz qui se dirigent vers ces filaments cosmiques. On va faire un petit pas en arrière et on va regarder les mouvements de flots de matière dans l'univers. D'accord ? Donc on a ces zones un peu surdenses que sont les filaments de toile cosmique. Là, je vais faire évoluer cette simulation et on va regarder en fait ce qui se passe. Et ce qu'on voit, c'est que la matière est attirée vers les murs, la matière coule le long des murs vers les filaments et puis après le long des filaments vers les nœuds. Donc les zones denses vont devenir plus denses parce que sous l'effet de la gravité, elles attirent la matière et les zones moins denses vont devenir encore moins denses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand les flots de matière se rencontrent pour former des filaments, ils vont se rencontrer et la rencontre de ces flots de matière, ça va les faire tourner, d'accord ? J'ai deux flots de matière qui se rencontrent, en fait, la matière va, voilà, elle va couler vers le filament, tourner, revenir sous l'effet de la gravité. Donc, la matière va se mettre à tourner dans les filaments. Alors, je reviens à mes galaxies qui sont sur le bord du filament et qui ne forment pas beaucoup d'étoiles. Là, j'en ai sélectionné quatre pour la visualisation. Vous voyez qu'elles ne sont pas tout à fait au centre du filament, mais elles sont sur le bord. Et on va regarder quelles sont les propriétés des flots de matière à grande échelle autour de cette galaxie. Donc, on a parlé de contenu rotationnel. Donc, je vais regarder le contenu rotationnel sur les bords des filaments. Et c'est représenté ici. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que quand c'est plus sombre, la matière tourne plus vite. D'accord ? Et en fait, on voit que ces galaxies, elles sont dans des zones où la matière tourne vite. Et alors ça, ce n'est pas du tout anodin, parce que ça veut dire qu'elles vont accumuler du gaz qui tourne beaucoup. Donc ce gaz va avoir du mal, en fait, il va avoir donc, une énergie cinétique de rotation importante, et il va avoir du mal à s'effondrer vers le centre de la galaxie pour former des étoiles rapidement, d'accord ? Donc il va avoir tendance à se stabiliser sur un disque autour de la galaxie, et en fait, il ne va pas être disponible pour former des étoiles. Donc là, j'ai juste survolé un aspect qui est assez intéressant, le fait que ben, ce n'est pas seulement être dans une zone dense qui est importante pour les galaxies, mais aussi, c'est aussi les propriétés du gaz dans le milieu intergalactique qui va façonner en retour les propriétés des galaxies, qui va avoir une influence sur leurs propriétés. Alors, c'était juste un survol, mais ça nous pointe quelque chose d'intéressant, c'est que le gaz, les propriétés du gaz dans les filaments sont structurées. Alors, dans le temps qui me reste, on va regarder un petit peu les propriétés du gaz dans les filaments. Alors là, on entre dans la partie interactive de la conférence. Donc, si vous avez un smartphone qui est capable de lire les QR codes, vous pouvez essayer de lire ce QR code et voir où ça vous emmène. Alors, si vous n'avez pas de smartphone capable de lire les QR codes, ce n'est pas grave, parce que moi non plus. Et donc, on va regarder les choses ensemble. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre des cubes de gaz dans une simulation. La particularité de tous ces cubes de gaz, c'est qu'ils ont une galaxie au centre. Et on va regarder la structure du gaz dans les filaments. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper des plans. On va couper ce filament en tranches. On va regarder ce qu'on voit dans les tranches. D'accord ? C'est pertinent de regarder des tranches parce que les filaments, c'est essentiellement des cylindres. Donc, c'est plus ou moins la même chose dans les tranches, quel que soit l'endroit où on coupe, plus ou moins. Donc, si vous lisez ce QR code, normalement, vous arrivez sur cette page-là. Et là, vous pouvez jouer un petit peu avec la simulation par vous-même. Alors, la page est en anglais, mais je vais rapidement expliquer ce qu'on y voit. Ici, vous pouvez sélectionner une galaxie. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 qui sont proposées. Ici, vous pouvez sélectionner la direction pour la projection, c'est-à-dire de quel côté on regarde la boîte. Et après, avec R1 et R2, vous pouvez sélectionner la position de cette petite boîte blanche qui va nous permettre de choisir là où on coupe dans le filament. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez appuyer sur... Alors, il y a d'autres paramètres, mais ce n'est pas la peine de les essayer tous parce que tous n'ont forcément ne vont pas avoir forcément beaucoup d'effets. Mais ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez appuyer sur Compute Stack Cross-Section View. OK ? Et on va regarder ce qu'on trouve. Donc ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'interface va calculer qu'est-ce qu'on voit sur ces tranches de filaments à cet endroit. Alors, donc sur cette image-là, c'est la distribution de densité de gaz. Ici, c'est la température du gaz. C'est intéressant parce que Donc ça, c'est pas encore les sections de filaments, hein, c'est une vue globale. Et c'est intéressant parce que, quand même de regarder ça, parce qu'ici, on voit que près de là où il y a la galaxie, on a une petite bulle de gaz chaud. D'accord ? Cette petite bulle de gaz chaud, elle est due à l'effet des explosions de supernovae dans la galaxie. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le filament, ici, avec une tranche qui passe par ce segment violet. Et quand je fais ça, alors si je regarde la distribution de densité, je vois ça. Donc c'est plus dense au centre du filament, c'est normal parce que c'est comme ça qu'on définit le filament. Après, je peux regarder la distribution de vitesse radiale. Alors quand c'est noir, ça veut dire que le gaz coule vers le centre du filament. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il va dans l'autre sens. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que le gaz donc, coule vers le centre de ce filament avec une vitesse qui n'est pas énorme, 50 km par seconde, mais c'est quand même une vitesse suffisante pour que ce gaz soit supersonique. Et donc, qu'est-ce qui se passe si le gaz supersonique rencontre le filament, donc le matériau plus dense du filament? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va former une onde de choc, donc de la même manière qu'un avion qui passe le mur du son. Et ça va se voir dans la distribution de la température ici, d'accord? Au niveau du choc, on va réchauffer le gaz tout autour du filament. D'accord? Plus c'est rouge, plus c'est chaud. On peut aussi le voir, par exemple, dans la distribution du nombre de Mach. Là, le nombre de Mach, ça va être le rapport entre la vitesse du gaz et la vitesse du son. Et en fait, là, on voit bien que tout autour du filament, le gaz est supersonique. Alors ça, c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'on a un mécanisme de chauffage du gaz qui intervient dans les filaments et pas dans la galaxie, d'accord, à l'extérieur de la galaxie, et qui est un chauffage essentiellement gravitationnel parce que la vitesse de gaz vers le filament, ça va dépendre du puits de potentiel gravitationnel de ce filament. Ensuite, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire des coupes à d'autres endroits. Donc, par exemple, là, c'est à un autre endroit. Donc, on coupe ici, puis on va faire une section transverse projetée de ce qui se passe ici. Là, c'est assez intéressant parce que le filament, il est très aplati. D'accord ? En fait, c'est un filament qui traverse un mur. Et donc, c'est très noir. Donc, ça veut dire que le gaz coule vite dans cette direction. OK ? La vitesse radiale est élevée. Donc, on s'attend de nouveau à observer un choc, et en effet, c'est bien le cas. Là, on voit cette surface de choc. Alors, ce qui est aussi assez intéressant sur ces images, c'est qu'on voit qu'au centre du filament, cependant, le gaz est plus froid que sur les bords. Donc, même s'il se réchauffe sur les bords, après, quand il coule vers le cœur, il peut rayonner de cette énergie et se refroidir de nouveau. Voilà, alors, donc là, on a mis en évidence, on a vraiment survolé le sujet, mais on a mis en évidence le fait que les filaments du milieu intergalactique sont structurés et qu'en fait, il se passe des processus à l'extérieur de ces filaments qui, on s'en doute, vont ensuite avoir un impact sur la formation des galaxies qui sont connectées à ces filaments, en fait. Alors, j'ai peut-être encore 5 minutes. Pour aborder ma conclusion, donc en faisant un petit résumé de ce qu'on a fait. Dans nos observations, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande diversité de galaxies. Cette diversité elle peut être due à des processus qui se passent à l'intérieur des galaxies, les mécanismes de chauffage, d'éjection du gaz, etc., ou à l'extérieur, l'environnement. On a vu cette distribution spatiale des galaxies en bulles de savant, donc la structure filamentaire, qui avait une certaine cohérence, une corrélation des propriétés des galaxies et des filaments. On a essayé de comprendre ce qui se passait, et pour ça, on est passé par des simulations. À travers ce petit travail, on s'est rendu compte que toutes les galaxies n'avaient pas le même accès au gaz, que ce n'était pas forcément évident comme on pensait, qu'il ne fallait pas forcément être dans un filament pour facilement former des étoiles, et que les propriétés elles-mêmes du gaz dépendent de l'environnement. Tout ça, c'est des simulations. En fait, la question maintenant qui est pressante, c'est peut-on observer directement les propriétés du gaz dans le milieu intergalactique? Et donc, je vais juste donner deux ou trois points qui permettent de répondre à cette question. Donc, on a conçu des instruments qui sont vraiment dédié pour l'observation du gaz dans le milieu intergalactique. Donc, par exemple, l'instrument MUSE, donc c'est un spectrographe, a observé effectivement l'émission par le gaz dans le milieu intergalactique. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un champ profond pris par le télescope Hubble, et je vais superposer sur cette image l'émission en Lyman alpha par le gaz, et en fait, on voit que l'univers est plein de cette émission, est plein de ce gaz qui peut émettre à la longueur d'onde Lyman alpha. Alors, qu'est-ce que c'est que cette longueur d'onde? Ça correspond, en fait, à l'excitation d'atomes d'hydrogène, d'accord? Quand on a un photon, un certain niveau d'énergie qui va rencontrer un atome d'hydrogène neutre, l'atome va absorber le photon, donc l'électron va passer à un niveau d'énergie excité, très bien, et ensuite il va se désexciter, et en se désexcitant il va émettre un photon à la longueur d'onde Lyman alpha, et c'est cette émission qu'on peut observer. Et même s'il n'y a pas beaucoup d'hydrogène neutre dans les filaments de la toile cosmique, ben, on peut observer cette émission. Après, l'émission est très très faible, donc là encore il faut observer pendant très longtemps. Donc c'est difficile d'observer en émission. Donc une autre technique, c'est d'observer peut-être en absorption. Donc on va mettre en évidence, en creux, si j'ose dire, ces filaments de gaz. Donc maintenant on suppose qu'on a une source en arrière-plan qu'on observe, on observe son spectre. Et donc là ce qu'on voit c'est le flux en fonction de la longueur d'onde. Et supposons que la lumière traverse un nuage de gaz qui contient de l'hydrogène neutre en avant-plan. Donc, une partie, voilà, certains atomes vont absorber les photons qui nous proviennent de cette source à la longueur d'onde Lyman alpha, et passer dans un niveau excité. Et en fait, ça va créer une raie d'absorption, voilà, dans le spectre. Et la position de cette raie d'absorption, ça dépend de la distance entre le nuage et la source, parce que ça dépend du décalage vers le rouge entre les deux. Et donc, maintenant, imaginons qu'on a beaucoup de contrastes, beaucoup de nuages, donc on va avoir beaucoup de raies d'absorption qui vont être à des positions différentes. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que maintenant, imaginons qu'on observe beaucoup de sources d'arrière-plan pour lesquelles on voit ces raies d'absorption. Donc là, je fais une petite démonstration. Ça, à droite, ça correspond à nos sources qu'on observe sur le ciel. Et à gauche, ce qu'on voit, c'est le flux en fonction du redshift. Donc ça correspond à ces raies d'absorption, OK? Donc j'observe une deuxième source ici qui est proche de la première. Et là, ce que je vois, en fait, c'est par exemple ici, dans le bleu, j'avais une raie d'absorption, là, ça descend, et ça descend aussi dans le orange, d'accord? Et pareil ici, ça descend dans le bleu et ça descend dans le orange. C'est-à-dire que ici, on a un nuage de gaz, c'est la lumière qui nous provient de ces deux sources, elle traverse un même nuage de gaz. Et donc je peux faire la même chose en rajoutant des sources. Et là, c'est, voilà, plus on rajoute de sources, en fait, plus ça devient intéressant, plus on peut voir des corrélations entre les spectres. Parce que, par exemple, ce que je vois, c'est que dans le spectre rouge, dans le spectre orange et dans le spectre bleu, ici, j'ai une raie d'absorption et qu'on voit peut-être aussi dans le vert. Donc, à cet endroit, on a une grande surdensité. Voilà, donc peut-être un mur de la toile cosmique que nous permettent de sonder ces sources, qui sont comme des phares, en fait, au loin. Donc, si j'en ai plein, en fait, je peux faire une reconstruction 3D de la distribution de gaz entre les sources et l'observateur. D'accord? Donc, je peux obtenir des choses comme ça. Et donc, par exemple, là, je vais présenter, pour finir cette mission, avec le télescope, avec l'instrument WIV, le spectrographe WIV, ou William Herschel Télescope, qui a vocation, donc il y a une partie du relevé prévu avec ce spectrographe, c'est d'observer comme ça un grand nombre de sources d'arrière-plan et de regarder toutes les raies d'absorption dans le spectre des sources, et après de faire une reconstruction 3D de la distribution de matière entre les sources et l'observateur. Donc ce spectrographe, en fait, il va commencer à entrer en activité dans les semaines à venir. Et donc le relevé aura lieu entre 2023 et 2029. Et on va cartographier de cette manière plusieurs centaines de degrés carrés sur le ciel. Alors, d'autres missions, bon, par exemple avec l'Extremely Large Telescope, qui fait suite au Very Large Telescope, mais dont la première lumière sera encore dans plusieurs années. Et puis voilà, il y a le Prime Focus Spectrograph au Subaru, peut-être MSE, etc. Donc voici ma conclusion. C'est une vue un petit peu d'artiste de tout ce qu'on vient de voir. Et donc on a vu que les galaxies constituent la partie facilement observable de la toile cosmique. Que pour comprendre les propriétés des galaxies, c'est bien de, enfin, on a besoin de comprendre aussi le milieu entre les galaxies qu'on voit difficilement. Et peut-être que des grandes avancées dans le domaine dans les prochaines décennies, ce sera justement par la détection et la compréhension des propriétés du gaz dans le milieu intergalactique. Merci.
Eh bien, merci beaucoup, Clotilde, pour cette présentation. Donc, on voit que c'est très ambitieux d'essayer de comprendre ça. Donc, c'est un peu comme si des bactéries essaient de comprendre la structure de la Terre, comment sa géographie et comment elle évoluait. Donc, il y a encore beaucoup de choses à comprendre, mais on voit que déjà, on en a quand même une assez bonne compréhension. Alors, je vais passer la parole à la salle. Vous pouvez aussi, donc, comme j'ai dit, poser des questions sur le chat. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu des merci. Donc, ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont contents de nous suivre sur Internet. Et puis donc, s'il y a d'autres questions, je vais les retranscrire. Alors oui, s'il y a des questions dans la salle.
Merci. Tout d'abord, merci. Lorsque vous parlez de gaz, s'agit-il uniquement d'hydrogène ou d'une composition, etc. Et d'autre part, quels sont les constituants de la matière noire? L'a-t-on scanné à toutes les longueurs d'onde possibles, ou même y a-t-il des progrès à attendre d'instruments de détecteurs autres? Merci beaucoup.
Alors, c'est une très bonne question. Le gaz dans le milieu intergalactique, c'est principalement de l'hydrogène, un peu d'hélium. Et après, il y a des très petites fractions d'autres éléments un peu plus lourds, donc des atomes un peu plus gros. Les éléments les plus lourds, le carbone, l'oxygène, etc., ils sont essentiellement formés à l'intérieur des galaxies. Quand on a, je pense, une assez bonne compréhension de la nucléosynthèse primordiale, même si ce n'est pas du tout mon domaine. Et donc, les fractions relatives des éléments, je pense, sont assez bien contraintes. Pour ce qui est de la matière noire, alors ça aussi, c'est une bonne question et ce n'est pas du tout mon domaine. Bon, enfin, la réponse facile, c'est qu'on ne sait pas hein, vraiment ce que c'est la matière noire et de quoi elle est composée. Je pense qu'il y a eu pas mal d'intervenants sur la matière noire, enfin, il y en a eu, aux conférences du LIAP, donc peut-être ils répondront beaucoup mieux à vos questions si vous regardez les vidéos que moi.
Peut-être qu'il y a une question liée à celle de monsieur qui était sur le chat. Donc, tu as parlé de gaz beaucoup, on en a encore parlé. Et il y a un internaute qui se demandait, mais c'est du gaz ou alors c'est du gaz ionisé, donc du plasma?
Ouais. Okay.
Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus?
Oui, alors en fait, ce gaz, il est principalement ionisé dans l'histoire de l'univers, on a cette période qui est la réionisation et qui va constituer la ionisation d'une très grande partie de l'hydrogène. Donc ça, c'est à redshift, ça s'est terminé à peu près à des décalages vers le rouge de 6. Et puis après, on a un peu plus tard, donc vers des décalage vers le rouge de 2, la réionisation de l'hélium. Donc, en fait, voilà, le gaz, il est essentiellement ionisé dans notre univers proche. Cependant, il y a encore une petite fraction de gaz neutre qui est suffisant, par exemple, pour créer ces raies d'absorption dans les spectres de sources en arrière-plan.
D'accord. D'autres questions? Oui, je monte.
Merci. Quand vous parlez de reconstruction 3D, est-ce que c'est une reconstruction en ramenant à un même instant, entre guillemets, la position de toutes les galaxies, ou est-ce que le temps est laissé libre, et est-ce que ça a un sens?
C'est une bonne question. En général, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va ramener, comme vous dites, à un même instant. Donc, on va regarder on va regarder des données comobiles, donc des distances comobiles. Donc, on va sortir l'expansion de l'univers de ce cadre. Et ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va reconstruire des volumes à une époque donnée, on va dire, et puis comparer des époques. Voilà, on va faire ça, segmenter comme ça.
D'autres questions? Oui.
Merci. Il fut un temps où on parlait beaucoup d'antimatière. Y a-t-il des galaxies qui seraient constituées d'antimatière? Merci.
Eh bien, c'est une très bonne question. Alors, j'ai pas de réponse. En fait, je pense que tout ce qu'on pourrait dire là-dessus, ce serait de l'ordre de la spéculation. Enfin, moi, je ne suis pas du tout une physicienne des particules, donc j'aurais du mal à en dire quelque chose de pertinent, je pense. Voilà. Enfin, ce qu'on observe, c'est ce qu'on observe, ce qu'on détecte gravitationnellement, ça va être la matière. Et donc, on travaille à partir de ça. La question de l'antimatière, je pense, n'est, disons, en tout cas pas très pertinente dans ce cadre, pour essayer de comprendre l'évolution des galaxies.
D'autres questions? Oui.
Oui, la toile cosmique s'organise sous l'effet de la gravité, donc qui tend à regrouper les éléments, et une énergie contraire, qui est l'énergie noire, tend à avoir un effet contraire, à accélérer l'expansion de l'univers. Quelle est la résultante?
Quelle est la résultante?
Est-ce que ça a ce comme seul effet d'augmenter les vides?
Oui, en fait, c'est très intéressant comme question. Et justement, donc, l'énergie noire ne va pas avoir d'impact sur des structures qui sont complètement autogravitantes, complètement effondrées, comme un halo. Mais en effet, ça va avoir tendance à éloigner les halos les uns des autres, par exemple, ou à déconnecter les filaments. Donc ça va avoir un impact sur la toile cosmique. Et justement, l'étude de la toile cosmique en tant qu'objet, par exemple, la connectivité, donc le nombre de filaments qui se connectent à des nœuds, ou bien la longueur caractéristique des filaments, ou la taille des vides, en effet, ça, donc ces statistiques vont nous permettre de dire quelque chose de la quantité, la densité d'énergie noire. Donc, en fait, l'énergie noire va avoir un impact sur la toile cosmique. Et justement, en mesurant la toile cosmique, on peut essayer de dire quelque chose sur l'énergie noire.
Une autre question là sur le chat. Donc, la force que vous utilisez dans ces simulations, c'est essentiellement la gravité, donc qui est une force attractive. Y a-t-il également des effets répulsifs, des forces répulsives qui pourraient être prises en compte et qui pourraient expliquer ces structures que l'on voit?
Alors, à grande échelle, c'est principalement la gravité. Donc, quand je dis grande échelle, c'est des échelles beaucoup plus grandes que l'échelle des halos et des galaxies. Après, évidemment, dans les galaxies, on a des explosions de supernovae, on a des jets émis autour des noyaux actifs de galaxies, donc qu'on peut considérer comme étant des... Enfin, ça a des effets répulsifs sur le gaz, donc ça a tendance à faire sortir le gaz des galaxies. Voilà. Mais c'est des processus hydrodynamiques, quoi.
D'accord. D'autres questions, oui?
Oui, vous nous avez montré une cartographie de cette toile cosmique. Est-ce qu'il y a une corrélation avec la cartographie du rayonnement cosmologique? Ou est-ce qu'on n'est pas du tout sur la même échelle?
Oui, en fait, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a deux choses à dire là-dessus. La première chose, c'est que les petites fluctuations qu'on peut mesurer sur le fond diffus cosmologique, c'est en fait les semences des... Enfin, ça correspond aux semences des halos effondrés, enfin, donc des galaxies qu'on observe dans un univers plus proche. Donc il y a un premier lien qui est fait à ce sujet. Et l'autre aspect important, c'est de considérer le fait que en fait, quand on va avoir une structure dense, ça va avoir tendance à dévier les rayons lumineux d'une source qui est en arrière-plan. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'anti-âge gravitationnel. Et donc, les photons du fond diffus cosmologique qui ont voyagé jusqu'à nous, ils sont aussi en partie déviés par la structure de matière qui est en avant-plan, quoi, entre eux et l'observateur.
Ok, je crois qu'il y a une question en haut à droite.
Merci. Merci. Je me demandais si on était capable d'avoir cette réflexion, cette vision à une échelle plus locale. Typiquement, est-ce que le groupe local est donc, a fortiori, la Voie lactée ou Andromède sont, font aussi partie de ces galaxies qui sont à l'intérieur de filaments? Est-ce qu'elles sont plutôt à l'extérieur? Ou est-ce que c'est trop proche pour le savoir? Merci.
Oui, ouais, c'est une très bonne question. Il y a des travaux en fait, sur notre amas local, l'Aniakea. Il y a des très jolies reconstructions et en fait, on s'appuie sur la... On peut mesurer relativement bien les vitesses particulières de toutes les galaxies qui nous entourent et faire une reconstruction qui s'appuie non seulement sur la position des galaxies, mais aussi sur leur vitesse, donc savoir dans quelle direction elles se dirigent, donc vers quoi, quelles structures elles sont attirées, etc. Et donc, en effet, on peut positionner la Voie lactée en bordure de cet amas voilà, de l'Aniakea. Et sur Internet, en fait, il y a plein de jolies vidéos de notre groupe local. Voilà.
Y a-t-il encore des questions dans la salle? Encore une.
Merci à vous pour votre belle conférence. Sur le gaz en question, le gaz des filaments, est-ce qu'on connaît sa densité et est-ce que ça a un sens de parler de sa température?
Oui, on a des moyens de... Non, on peut, sachant la densité de matière ordinaire à laquelle on s'attend, d'après nos mesures cosmologiques. Donc, si on ajuste un modèle, on peut en déduire la densité à laquelle on s'attend. Et sachant la densité qu'on observe dans les galaxies, la quantité de matière qu'on observe dans les galaxies, on peut inférer la quantité de matière à laquelle on s'attend dans les filaments. C'est une chose. Après, en faisant des observations telles qu'avec la forêt Lyman alpha, on peut aussi estimer la densité de gaz dans les filaments. On peut aussi estimer sa température. Dans certains régimes, voilà. Après, j'ai parlé de l'émission du gaz en Lyman alpha, il l'émet aussi en X, donc ça ne va pas être les mêmes phases du gaz qui vont émettre en fonction de la longueur d'onde qu'on regarde. Donc, en fait, la question de la quantité de gaz dans les filaments, qu'on a appelé la question des baryons manquants, ça a été une grande question dans la cosmologie au cours des dernières années. On sait maintenant que ces baryons sont répartis dans les filaments, mais les détecter directement reste difficile. Mais oui, ça a du sens de parler de la température du gaz dans les filaments, sachant que ce n'est pas homogène, comme on l'a vu, ça peut être plus chaud sur les bords et plus froid au centre. Voilà.
Merci. Y a-t-il encore des questions, des commentaires dans la salle? On les a toutes épuisées. Sur Internet, j'en vois plus non plus. Je vous propose d'arrêter là pour ce soir. Je vous rappelle que nous nous retrouvons pour le premier mardi du mois donc à l'IAP le 8 novembre prochain avec Michel Denfen qui nous parlera des nuages de Magellan. Donc merci à tous d'être venus. Bon retour. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Et merci de nouveau, Clotilde. Bonsoir.